Bonjour Nadim.
Bonjour Arnaud.
On est parti pour notre exploration d'Active Directory. Quelques notions avancées autour du dépannage et de la meilleure compréhension d'un environnement. C'est le troisième module et on va discuter d'un élément fondamental de l'Active Directory.
DNS.
La résolution nom et DNS, effectivement. Donc dans ce module, on va connaître le service DNS, comprendre comment les DC discutent entre eux et se localisent, regarder où tout ça s'est stocké dans l'Active Directory. Et puis on va regarder
des erreurs courantes,
ouais,
très connues, et ainsi que les outils de dépannage en dehors des journaux d'événements, bien entendu.
Voilà, tu nous parles de ton expérience terrain sur l'AD parmi des milliers d'Active Directory, milliers, bon, peut-être pas, mais centaines d'Active Directory que tu as pu voir durant ton activité chez nos grands comptes européens et mondiaux. Qu'est-ce qu'on utilise comme mécanisme pour la résolution de noms dans l'AD ? DNS, Domain Name Service, Domain Naming Service, c'est utilisé pour localiser des hôtes, donc des machines ou des services, donc des enregistrements type SRV ou des enregistrements type A, Quad A ou des enregistrements aliasés de type CNAME aussi. Ce sont différents types d'enregistrements qu'on va trouver dans une organisation de résolution de nom, de DNS. Quand est-ce qu'on l'utilise dans l'Active Directory ?
Alors, dans l'Active Directory, nous avons l'étape de réplication dont on a parlé dans notre premier module, réplication d'Active Directory, où nous avons un enregistrement de type SRV qui est dédié à la réplication. Nous avons aussi des enregistrements de type catalogue global, de type PDC émulateur, de type contrôleur de domaine du domaine, contrôleur de domaine spécifique d'un site particulier. Donc tout dépend ce que nous recherchons à résoudre comme service. Un client va automatiquement chercher un contrôleur de domaine de son domaine. Une fois qu'il intègre ce domaine, il va après chercher un contrôleur de domaine dans son site pour cette partie optimale dont on a parlé dans nos précédents modules. Et tous ces enregistrements sont apportés par le contrôleur de domaine et les services NetLogon une fois qu'il démarre. Donc ce DNS peut être un DNS externe à l'Active Directory en supportant bien entendu la mise à jour dynamique. Sinon, dans la plupart des cas, dans la plupart des environnements en tout cas que j'ai visités, les environnements utilisent un DNS Microsoft qui est intégré à l'Active Directory. Donc intégré à l'Active Directory, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette partie-là d'intégration du module résolution de nom DNS de l'Active Directory?
Eh bien, ça veut dire que déjà, on n'aura pas besoin de définir de mécanisme de réplication propre au DNS. Parce que dans DNS, on sait qu'il y a un mécanisme qui va permettre de dire, toi, tu es propriétaire d'une zone, tu es propriétaire primaire d'une zone, et tu vas le télécharger depuis un autre serveur secondaire qui ira rechercher sur la partie primaire. Donc là, c'est un des problèmes, c'est qu'il faut avoir des primaires et des secondaires, et puis l'Active Directory, par nature, il est multimètre. Donc déjà, là, on est un petit peu embêté. Et puis, c'est bête d'avoir à faire ça, puisqu'en fait, on a déjà une topologie dans l'Active Directory qui existe. Donc, on va savoir que si on a un ensemble de DC, ils vont aussi être DNS et ils vont établir une réplication déjà préexistante pour ces mécanismes-là.
Tout à fait, Arnaud. Donc, cet environnement multimètre qui réplique via sa réplication Active Directory, nous pouvons l'utiliser, se baser dessus, pour avoir un DNS intégré à Active Directory et répliquer en multimètre. C'est-à-dire qu'on a des zones primaires un peu partout.
Oui.
Et le fait d'avoir une zone primaire partout, nous pouvons écrire et non avoir que de la lecture. Donc, nous avons optimisation de ce service DNS. Alors, pourquoi ce service DNS est important, d'après toi ?
Je ne sais pas, pour que les DC puissent répliquer entre eux, ça, on l'a déjà dit, mais peut-être pour localiser des services en tant qu'utilisateur. Si je veux localiser un serveur, un KDC par exemple, quelque chose pour récupérer un ticket Kerberos, je vais peut-être demander un service Kerberos à mon DNS peut-être, non ?
Effectivement. Chaque notion d'authentification d'application de GPO ou de recherche d'un contrôleur de domaine pour un autre service, nous avons besoin d'une résolution de nom. C'est la première étape avant qu'on arrive à l'étape d'authentification au niveau du ticket de sécurité ou d'autres fonctionnements comme application de GPO qu'on a vu dans le précédent module. Donc la résolution de nom, si elle ne se fait pas, c'est le premier step de troubleshooting que nous avons dans l'Active Directory.
Voilà, il y a plein de trucs qui vont se passer de tous les
côtés.
C'est-à-dire
qu'on ne peut même pas regarder l'état de la réplication de l'Active Directory ou du sysvol la résolution de nom n'est pas respectée.
Ouais. Donc on est d'accord sur un contrôleur de domaine, sur les contrôleurs de domaine dans un environnement. Chacun doit avoir dans sa configuration TCP/IP au moins deux contrôleurs de domaine, deux serveurs DNS qui sont spécifiés. En général, ça peut être lui-même s'il est DNS et un autre de même niveau. On veut dire d'un même niveau, de même hiérarchie, par exemple, dans le même domaine.
Exactement.
Et puis pas trop loin.
Effectivement, on a cette configuration dont on a mentionné par rapport au catalogue global de promouvoir tous nos contrôleurs de domaine catalogue global, et du même niveau en tant que serveur DNS, c'est-à-dire que chaque contrôleur de domaine offre ce service à ses utilisateurs. Donc du côté DHCP, nous pouvons donc déterminer les DNS pour chaque client dans le site où il est, et à partir du moment où on intègre par exemple une machine dans le domaine, elle va faire du broadcast dans le réseau, elle va trouver un DHCP vu qu'elle est client DHCP. Mm-hmm. Elle va donc récupérer son adresse IP, son subnet mask et bien entendu ses serveurs DNS. Mm-hmm. Et donc une fois qu'on l'intègre dans le domaine, elle va contacter ce serveur DNS qui est par exemple dans notre meilleure pratique un contrôleur de domaine. Mm-hmm. Ce serveur DNS va essayer de lui répondre à sa première requête LDAP qui va être une requête qu'on appelle générique, c'est-à-dire que le client va demander « je veux un serveur LDAP sur du TCP, je veux que ce serveur LDAP soit un contrôleur de domaine ».
Et donc là, on a n'importe lequel potentiellement de l'organisation.
Exactement, c'est-à-dire que par défaut, le DNS va nous envoyer la liste de tous les contrôleurs de domaine du domaine.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, la machine va faire un ping LDAP de ses contrôleurs. Mm-hmm. Le premier qui répond va commencer la phase d'authentification. Mmh. Et à ce moment-là, il va voir dans quel site, si on a défini bien notre topologie de site, si vous vous rappelez bien, par rapport au sous-réseau d'adresse IP.
Voilà, il va regarder les réseaux définis. Par rapport au réseau, il va en déduire un site.
Exactement. Dans son arborescence DNS, si vous ouvrez votre zone underscore MSDCS, par exemple, vous avez dedans les contrôleurs de domaine, de tout le domaine, mais mmh. vous avez encore une autre brique qui s'appelle site, mmh. et où là, pour chaque site existant, nous avons les contrôleurs de domaine qui se sont enregistrés avec leur enregistrement SRV type site dans ce site-là, et va nous renvoyer, donc le serveur DNS, la liste des contrôleurs de domaine du site auquel on appartient en tant que client.
Et ça, de la même manière, c'est déterminé par la topologie Active Directory.
Effectivement.
Qui va dire tel DC, tu couvres tel site de tel et tel subnet qui sont présents dans son organisation.
Exactement.
Alors, si j'ai aucun DC dans un site, qu'est-ce qui se passe?
Alors, si nous avons un site Active Directory qui est bien configuré, bien entendu, ça veut dire que nous avons des clients et des sous-réseaux ou au moins un sous-réseau associé à ce site.
Ouais.
Mais nous n'avons pas de contrôleur de domaine parce que la bande passante est bonne entre ce site-là et le site où il y a des contrôleurs de domaine.
Ouais.
On a besoin de ce site, par exemple, pour d'autres notions comme les applications de GPO type site. Mm-hmm. Une des plus connues, c'est celle de GPO proxy, mm-hmm. une stratégie de groupe qui va déterminer pour nos utilisateurs itinérants avec leur laptop, quand ils vont sur un site, ils vont récupérer le proxy du site où ils sont, par exemple.
Voilà.
Nous avons aussi besoin pour SCCM, pour déployer des packages de notions de site. Nous avons besoin du DFSN, par exemple, pour des partages de serveurs de fichiers, une notion de site, mais mm-hmm. nous n'avons pas besoin de contrôleurs de domaine, par exemple. Dans ce cas-là, nous avons des contrôleurs de domaine qui vont calculer via un algorithme du service NetLogon qu'on appelle le Auto Site Coverage, mm-hmm. qui vont se enregistrer dans le site le plus proche par rapport au coût
à la topologie
qu'on a défini dans notre topologie. Encore une fois, nous revenons à notre module de réplication Active Directory où nous insistions sur cette notion de configuration de la topologie de site.
Très bien. Donc là, c'est parfait, hein. On a cette résolution de nom propre à l'Active Directory, mais après, le DNS, évidemment, permet de résoudre pas mal de choses, d'aller vers le monde extérieur. Donc quand on configure une résolution de nom, on doit aborder tous les sujets additionnels qui vont être comment est-ce que je configure, par exemple, les redirecteurs, pour aller dire si j'ai une demande pour aller résoudre un nom vers contozoo.com, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie vers l'Internet, vers des serveurs de l'Internet, ou est-ce que j'ai une zone contozoo.com qui existe dans mon domaine? Dans ce cas-là, je peux définir ce qu'on appelle un redirecteur conditionnel pour dire, ben voilà, sur ma forêt, si quelque chose qui demande contozoo.com, alors je l'envoie vers tel DNS qui est hébergé chez moi, ce qui permet d'optimiser la résolution de nom. On a eu quelques changements d'ailleurs là entre 2000 et 2003, on a introduit la notion de redirecteur conditionnel justement, où 2000 permettait simplement lui de faire des redirecteurs et de dire simplement tout ce que tu ne sais pas résoudre, tu vas l'envoyer ailleurs. Donc on a un peu gagné en finesse avec 2003 sur cette notion de redirecteur. Après, il y a à l'intérieur d'une zone DNS ce qu'on appelle les notions de délégation, c'est-à-dire qu'on va dire qu'une sous-zone, par exemple europe.corp.microsoft.com, c'est une zone qui n'est pas gérée en local, mais on va pointer vers des serveurs DNS qui sont responsables de l'hébergement, de la maintenance de cette zone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une délégation.
Effectivement, un DNS, un serveur DNS, qu'il soit contrôleur de domaine, si le DNS est intégré à des, ou si des serveurs DNS primaires ou secondaires, ou un autre service DNS, il est configuré, s'il est bien configuré, c'est pour répondre à tout type d'interrogation. C'est-à-dire que s'il a l'information dans sa base, il va répondre au client. S'il n'a pas, il peut savoir vers quel service le rediriger, vers quelle autre zone ou quel DNS externe le rediriger. Le plus important, c'est d'avoir une réponse valable pour le client. Si nous prenons un exemple d'un choix d'une entreprise ou d'une organisation qui décide d'utiliser Active Directory que pour du fonctionnement interne des clients, pour de l'authentification et de l'application GPO d'accès au serveur de fichiers, à ce moment-là, on peut décider de ne pas avoir de redirection vers l'extérieur ne pas avoir de délégation vers d'autres zones.
Voilà, c'est un choix de design. On peut se dire finalement tout ce qui va aller vers l'extérieur, ça passera par le proxy. Et du coup, j'ai pas besoin de résoudre les noms en interne pour autre chose que ce qui est de l'interne. Parce que c'est le proxy qui va faire le lien vers le monde extérieur. Le bon fonctionnement de DNS, ça va être quoi? Ça va être la présence effectivement des host records. Donc ce qu'on appelle un host record, c'est un enregistrement direct qui donne un nom vers une adresse IP. Donc on a un enregistrement de type A qui est pour l'adresse IPv4, et un enregistrement de type quad A, donc AA. AA,
qui est présent. IPv6.
Pour des adresses IPv6. Donc, à minima.
Sachant que Windows 2000 et 2003, le service DHCP client sur un contrôleur de domaine est responsable d'enregistrer ce type d'enregistrement. Mm-hmm. Ce qui était problématique parce que plusieurs administrateurs pensaient que ce service DHCP client n'est pas nécessaire sur un contrôleur de domaine
puisqu'il
est en IP fixe. À ce moment-là, donc, on a eu quelques soucis par rapport à ça. Assurez-vous, donc, jusqu'à juillet prochain, à la fin de support de Windows 2003, que ce service est bien démarré. À partir de Windows 2008 et jusqu'à 2012 R2, ça a été modifié où le service DNS client est le responsable d'enregistrement sur un contrôleur de domaine des enregistrements de type A, code A et des enregistrements de type PTR.
Super, donc on a un petit peu remis les choses dans l'ordre logique.
Exactement.
Là, on a aussi des enregistrements de type SRV, donc là pour la localisation des services qu'on va trouver sur l'Active Directory. Donc ça va être au format le nom du service, point le protocole, point le domaine. Donc ça va être par exemple Kerberos, point quelque chose, point domaine, avec un enregistrement de type IN SRV, et donc une priorité sur l'enregistrement, un poids, un port qui est spécifique, et quel hôte va être responsable pour ce record.
Pour ajouter un point par rapport à cela, c'est le service NetLogin qui est responsable des enregistrements SRV, donc de les créer. On a un fichier qui s'appelle netlogin.dns, où on peut trouver tous les enregistrements de type SRV concernant ce contrôleur de domaine. Nous ne recommandons pas, bien entendu, de modifier ce fichier directement. Et si vous avez un problème, en redémarrant le service NetLogin, il va recréer un nouveau fichier et écraser l'ancien, sauf si on le renomme.
Donc ce netlogin.dns que tu nous indiques, là, on pourrait par exemple l'utiliser quand on héberge un AD, pas sur l'Active Directory, et qu'on voudrait importer ce fichier sur le serveur DNS tiers, par exemple. C'est ça l'utilisation ou...
Non, l'utilisation est plutôt qu'un contrôleur de domaine, quand il démarre ou son netlogin démarre, sur le service NetLogin, il va enregistrer tous ses enregistrements dans ce fichier. Et ce fichier, derrière, il est injecté dans son DNS, qu'il soit intégré, qu'il ne soit pas intégré. Dans tous les cas, c'est ce fichier qui est important. Quand on a des serveurs, des enregistrements de type SRV manquant dans le DNS, forcément, nous aurons des problèmes de résolution. La première étape de troubleshooting, c'est de redémarrer le service netlogon pour forcer la recréation de ce nouveau d'un fichier netlogon.dns. Jamais, encore une fois, bypasser l'automatisme et aller le créer à la main dans le DNS.
Bonne pratique. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme enregistrement? Des CNAME. Donc un CNAME en DNS, c'est un alias pour dire Robert s'appelle Toto. Donc là, finalement, on va utiliser un GUID qui va être un identifiant unique du contrôleur domaine pour identifier DC01, DC02. Et c'est en fait avec ces GUID, avec ces CNAME, qu'on va identifier les contrôleurs domaines et qui vont plus particulièrement s'identifier entre eux pour leur application. Parce que cette partie de GUID et de CNAME est utilisée que pour la réplication entre DC. Hein. Donc tout ça, c'est enregistré seulement à la racine, à la zone DNS racine de la forêt hein, pour le fonctionnement de la réplication.
Deux types d'enregistrements importants, c'est-à-dire les CNAME record, c'est GUID, et les enregistrements de type catalogue global, sont uniquement dans la zone qu'on appelle racine, qui est donc underscore msdcs point le nom de votre
forêt. Résolution non avec DNS. Si on regarde un petit peu à une petite arborescence, avec un petit exemple ici de contoso.com, avec un DNS et un contrôleur de domaine. Je te donne le contrôle ici pour que tu puisses nous expliquer un peu un flot de résolution non.
Donc nous avons un premier domaine qui s'appelle contoso.com. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine racine.
Voilà.
C'est le premier domaine qu'on a créé. Donc notre forêt porte le nom DNS du premier domaine qu'on a créé dans notre forêt.
Voilà.
Dans notre cas, contoso.com. Nous avons un serveur DNS, un contrôleur de domaine, et nous avons donc ces GUID records, ces CNAME records importants. Nous avons les enregistrements de type A, les enregistrements de type SRV.
On peut considérer
que ces GUID records sont des enregistrements de type SRV aussi.
Tout à fait.
Donc, ils sont présents dans le serveur DNS racine.
Voilà.
À partir de Windows 2003 et donc l'adoption des applications, des partitions applicatives, nous pouvons répliquer cette zone racine underscore msdcs à travers tous les serveurs DNS de la forêt. Donc ça nous fait gagner du temps et en plus, nous n'avons plus besoin à chaque réplication ou à chaque recherche d'un global catalogue de faire du forwarding, donc de la redirection de nos serveurs DNS des domaines enfants. Et donc, on n'a plus besoin aussi de faire de la délégation de l'autre côté ou des serveurs primaires, serveurs, donc zone secondaire.
Voilà.
Donc, c'est assez intéressant de pouvoir avoir cette zone racine très importante qui est utilisée
partout,
tous les clients et tous les DC de la forêt. Présente partout.
Ça optimise un petit peu les flux. Effectivement, on n'a pas à remonter dans la hiérarchie pour trouver les DNS de la racine.
Exactement.
Hop, vas-y. Peut-être que je dois te débloquer. Je vais zoomer.
Donc voilà ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire qu'on permet au serveur racine de déléguer la zone à un serveur d'un domaine enfant. Dans notre cas, c'est c2.condoso.com. Et donc, chaque contrôleur de domaine va s'inscrire dans cette zone. Donc, soit il héberge la zone, il est autoritaire sur la zone parce qu'elle réplique sur tous les contrôleurs de domaine et donc il peut s'inscrire sur son contrôleur de domaine. Si ce n'est pas le cas, il va atteindre la zone racine pour inscrire cet enregistrement de type SRV CNAME.
Dans tous les cas, ce qu'on retrouvera sur la serveur DNS racine, c'est une délégation pour dire c2.contoso.com, ce n'est pas administré ici. Tu dois aller résoudre l'information de manière autoritaire sur un DNS de ces deux.
Effectivement, en Windows 2000, nous n'avons pas le choix d'avoir des réplications de niveau forêt du scope DNS via les partitions applicatives. Donc, on était obligé de passer par ce scénario en particulier, d'avoir toujours de la délégation et de la redirection dans le sens bas vers le haut et délégation du sens haut vers le bas. Si le serveur DNS de la racine n'était pas disponible, nous avions énormément de problèmes de réplication, d'authentification, etc. D'où la recommandation d'avoir la zone underscore MSDCS au niveau de la partition applicative, Forest DNS Zone, et que chaque contrôleur de domaine ou serveur DNS de chaque domaine a bien cette zone-là hébergée localement.
Ok, ben on a bien vu ça, la différence entre le forwarding pour la remontée et puis la délégation pour la descente à l'intérieur d'un espace, d'un namespace. Là, pareil, l'enregistrement des guide records. Et donc, bah, sont les options qu'on a hein, pour la résolution de nom. On a effectivement le forwarder, la délégation. Il y a d'autres mécanismes qui sont là depuis longtemps dans Windows, qui peuvent être la zone secondaire.
Effectivement. Donc on a le transfert de zone, c'est pas tout le temps à jour.
Ouais, c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est pas sécurisé. Ouais, c'est ce qu'on faisait à l'époque sur 2000. Hein, c'est qu'on allait dire, tu vas chercher la zone racine sur les serveurs de la racine, et puis tu allais télécharger, ce qui était bête, hein, globalement. Mais bon, c'était une des manières de le faire. Et c'est pour ça qu'on l'optimisait avec les partitions applicatives. Si vous avez migré depuis 2000, d'ailleurs, il y a un petit effort de migration à faire aussi, hein, pour passer les informations dans les partitions applicatives. Mais il y a tout ce qu'il faut sur TechNet pour faire ça de manière propre. Les conditional forwarding et puis les stubs sont deux autres options qui sont à notre disposition pour faire ça. Donc le conditional forwarding, c'est un type de forwarding qui prend comme information le nom spécifique, donc un suffixe DNS particulier ou un nom spécifique. On va le renvoyer vers un suffixe DNS, un serveur DNS particulier. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Et puis la stub zone, c'est pareil, un indicateur qui permet de dire tu veux une information sur telle zone, alors les serveurs qui sont autoritaires pour telle zone sont placés là. Et puis là, on est juste en mode cache. Hein, et puis on va. Alors, l'intérêt de la stub, c'est qu'on va quand même rafraîchir automatiquement. C'est qu'on va aller voir les NS, les NEM serveurs qui sont autoritaires pour la zone en stub. On va les rafraîchir automatiquement. C'est là où c'est un peu plus efficace que la zone secondaire qui est statique.
Ouais.
Dépannage de DNS. Alors, vaste terrain, hein, Nadim.
Effectivement, là, on a la première opération que tout le monde pense à faire, c'est faire un ping, vérifier l'état du câble réseau avant de commencer à faire des troubleshooting un peu plus avancés. Puis, c'est très important de voir la configuration TCP/IP de la machine, la carte réseau qui est utilisée. Ouais. Est-ce que la machine ou le TC est bien configurée au niveau DNS, au niveau du subnet mask, etc. Et puis, bien sûr, on a toujours le dernier recours de prendre des traces réseau vraiment pour voir ce qui sort de la machine et ce qui rentre. Après, nous avons des outils assez puissants comme NS Lookup qui nous permet aussi de voir si on a des retours par rapport à nos enregistrements SRV par exemple. Nous avons le DCDiag qui est un outil pour tous qui est utilisé pour le diagnostic d'un contrôleur de domaine, mais avec un test spécifique DNS pour évaluer l'état du serveur DNS Active Directory, donc du contrôleur de domaine au niveau du forwarding, de la délégation, des enregistrements SRV, de l'état des différents services utilisés par ce contrôleur de domaine. Nous avons aussi forcément la console DNS et les journaux d'événements qui nous donnent pas mal d'informations aussi côté DNS.
Yes, DNS Lint permet de vérifier la cohérence des enregistrements par rapport aux informations de l'AD à l'intérieur du DNS, parce que globalement c'est quand même plus intéressant que ce soit un outil qui fasse ça plutôt que de nous aller espalucher l'ensemble des informations TDC et d'aller vérifier ok l'ensemble des GUID c'est bon, ok l'ensemble des enregistrements type service par rapport à topologie c'est bon, enfin c'est pas gérable humainement, donc on doit le faire par un outil.
Effectivement.
Auquel cas, s'il nous manque des enregistrements, tu le dis tout à l'heure, on redémarre NetLogon, comme ça c'est la machine qui s'en occupe. ipconfig/register DNS permet forcer l'enregistrement, on attend un petit peu histoire que l'opération se fasse et soit répliquée. Et puis c'est de la manière les journaux d'événements qui vont nous intéresser dans ce contexte-là.
Quels sont les problèmes courants? Le manque d'enregistrement déjà, c'est quelque chose qui peut générer pas mal de problèmes de résolution si on ne trouve pas un retour de notre résolution. Les name serveurs en plus, c'est-à-dire que quand on enlève des contrôleurs de domaine de façon pas très propre, et nous n'avons pas de ce qu'on appelle du scavenging, c'est-à-dire du nettoyage des objets obsolètes dans notre DNS, nous pouvons avoir de retour de noms de serveurs qui n'existent pas et donc forcément pas de retour de résolution.
Donc là, c'est toujours une bonne pratique. Hein. Allez vérifier dans chaque zone de l'Active Directory qu'on n'a plus de serveurs qui ne soient plus des contrôleurs de domaine. Puisque selon les versions, même si on faisait une bonne dépromotion, il y avait toujours DNS.
Exactement.
Qui restait.
Donc, la différence, c'est qu'il y a des parties manuelles dans le DNS et des parties automatiques. Les parties manuelles sans forcément à nettoyer manuellement.
Oui. Alors, parmi les problèmes courants, il peut y avoir aussi une boucle de forwarder, hein, où tu as chaque DC qui dit, voilà, si tu veux aller sur toto.com, va sur tel DC. L'autre récupère la recette. Oui, bah, toto.com, finalement, il y a un autre forwarder, c'est là-bas. Et comme ça, chacun se passe. Et puis, on a des paquets zombies, comme ça, qui circulent jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est effectivement problématique. Hein. Problématique classique aussi, c'est d'avoir un seul DNS qui est référencé dans la configuration TCP/IP d'un serveur, d'un DC. Un seul DNS ou un seul DNS valide. Parce que ben, tu vois bien, on a eu la configuration IP qui a changé, donc on avait tel DC à l'époque qui était mis en primaire et tel DC qui était mis en secondaire, mais tel DC il était dépromu. Du coup, en fait, dans la console, dans la configuration TCP/IP du DC, il n'y a plus qu'un seul DNS qui est valide. Manque de bol, c'est lui-même. Et puis tu sais, on a un problème avec 2003 ou un problème d'œuf et de poule.
Effectivement, nous avons pas mal de soucis à une époque de recommandations sur. Le DNS, contrôleur de domaine, il doit pointer sur lui-même ou sur son partenaire. Mm-hmm. Donc, je vous confirme, hein, il faudrait qu'il pointe sur lui-même mm-hmm. et sur un partenaire de réplication du même site ou d'un autre site s'il est tout seul dans son site. Mm-hmm. Donc, c'est les meilleures pratiques. Côté client, même chose, nous recommandons d'avoir des bonnes pratiques, d'aller vers des DNS plutôt locaux qu'ailleurs et ne pas toujours utiliser les mêmes DNS. Au niveau des HCP, privilégier des DNS par site que des DNS, que les mêmes DNS. Ouais. Sachant que la résolution de nom, c'est quelque chose de très important dans le fonctionnement de l'Active Directory, ça va être un des services les plus utilisés. Et donc, si on attaque toujours le même serveur DNS, nous risquons d'avoir des problèmes de performance et de charge sur le contrôleur de domaine ou le serveur DNS.
Yes. Parmi les autres problèmes classiques, le nombre de cartes réseau multiples qui s'enregistrent, on le voit bien, hein, on dédie par exemple une carte au backup sur un contrôleur de domaine, et puis manque de bol, on n'a pas bien réglé la carte réseau, du coup la carte de backup elle va s'enregistrer dans l'Active Directory, et donc on va potentiellement avoir des clients qui vont essayer d'attaquer le DC par la carte de backup, par un subnet, qui pour eux leur semble logique, hein, niveau réseau, mais finalement il n'est pas atteignable par eux parce que c'est un réseau de backup qui fait que sens dans le data center. Donc pour ça on règle sur la carte réseau que cette carte réseau ne doit pas s'enregistrer dans l'Active Directory pour éviter ce genre de comportement. Et puis autre chose intéressante, c'est, on le dit tout à l'heure, hein, dans les bonnes pratiques, il y a ce qu'on appelle le vieillissement, les nettoyages programmés, donc le scavenging, la purge des enregistrements qui sont plus valides sur un environnement. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on a tendance à recommander d'activer scavenging et vieillissement des records sur un Active Directory.
Puis pour finir, j'ajouterais que
si nous
avons des firewalls dans l'entreprise entre des contrôleurs de domaine qui sont serveurs DNS, et ben, vu que le DNS ne va pas faire une différenciation au niveau du firewall, si un DNS ne répond pas ou un contrôleur de domaine ne répond pas, on peut avoir une liste de tous les contrôleurs de domaine qui ne sont pas accessibles. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose aussi à faire attention dans la configuration DNS de nos clients.
Ouais. Donc le stockage d'informations dans l'Active Directory, on en discutait. Les partitions de domaine avant 2003, et puis on utilise les partitions applicatives dans serveur 2003. Donc quand on va dans les propriétés d'une zone, par exemple si on va dans la zone de forêt, eh bien on va avoir une des différentes options qui sont configurées ici. On regardera ça dans un exemple, dans une démonstration tout à l'heure, hein, plutôt d'en discuter en théorie. Donc je lisais, et c'est pour ça que je rementionnais ici, il faut faire une migration. Si on est passé de 2000 à 2003, les informations n'ont pas été migrées automatiquement. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir du coup tirer parti de cette topologie, de cette petite optimisation. Donc plutôt que d'en parler plus en détail, Nadim, je te propose de regarder à quelques petits outils qu'on utilise tous les jours pour vérifier la consistance, la cohérence de notre environnement. Premier outil, DNSLint. Donc DNSLint, c'est un outil qui est téléchargeable sur Microsoft.com et qui permet de vérifier que tous les enregistrements DNS nécessaires à l'AD soient bien présents sur un environnement.
Donc DNSLint va vérifier deux choses. Il va prendre un contrôleur de domaine pour vérifier le nombre de contrôleurs de domaine et leur UID. Mm-hmm. Et d'un autre côté, il va aller vérifier sur un serveur DNS si le nombre de CNAME records, donc les DNS enregistrements avec le GUID pour underscore.mscs pour le nom de la forêt, est le même. Donc si j'ai 20 contrôleurs de domaine, je devrais trouver 20 enregistrements de type CNAME dans le DNS sur chaque DNS et que chaque CNAME record, donc enregistrement de type CNAME, est bien résolu avec la bonne adresse IP et le bon nom du contrôleur de domaine.
Eh ben, je te propose de regarder ça directement dans mon petit environnement. On va aller sur ici un serveur membre qui me sert au diagnostic et au troubleshooting de mon environnement. Hop. On va ouvrir une ligne de commande. On va aller dans mon outillage MVA, où j'ai au préalable téléchargé les informations. Hein. Et puis je vais lancer effectivement un DNS Elint que je vais zoomer, comme ça tu pourras corriger éventuellement mes erreurs de syntaxe. Donc DNS Elint slash AD, je lui dis que je fais de l'AD. Je lui dis d'aller chercher ça sur 192.168.0.121 comme premier DC. Je lui dis de vérifier ça sur le serveur. Hop, 192.168.0.21. Et je lui dis ça, tu me fais en mode verbose. Donc tu me donnes tous les arguments qui seront nécessaires. Hop, je me suis trompé. Il me manque un 1 ici, par devant. Et voilà. Donc là, il me dit, je suis en train d'effectivement parcourir tout les DC. Il me donne un output en mode graphique. Et il me dit, est-ce que tu veux régénérer un rapport? J'avais déjà fait un rapport avant. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, il va te générer un beau fichier XML.
Voilà. Et puis là, on a donc les trois contrôleurs de domaine du domaine w2k12demo.net, ouais, avec le guide. Donc, une fois qu'on a les trois contrôleurs et leur guide, on va vérifier sur chaque serveur DNS s'il répond au port TCP/UDP en 53 et bien entendu qui est l'autoritaire de la zone. Quelques autres informations sur les refresh périodes. Et on a donc les trois contrôleurs de domaine, leur adresse IP, et ça nous permet de faire le lien entre le CNAME, son adresse IP et son nom FQDN, donc son nom DNS.
Yes.
Et si vous avez plusieurs contrôleurs de domaine et vous ne voulez pas voir en détail, vous pouvez aller vers la fin pour voir si c'est tout est OK.
Voilà, en fait, à la fin, voilà, il nous dit simplement tout est OK ou tout est OK. Donc voilà, là, il nous dit…
Si nous avons des enregistrements manquants, nous l'aurons tout de suite ici et à ce moment-là, on peut aller voir le détail.
Voilà, donc ça c'est le mode simple. On va regarder à la fin s'il y a un truc en rouge et on est au courant. Donc c'est un premier outil qu'on utilise. Après, on peut aussi utiliser un autre outil pour faire ça.
On va l'utiliser plutôt quand nous avons des problématiques de réplication.
Voilà, problématiques de réplication
liées au réseau.
On utilise résolution, plutôt. Un autre outil, DCDiag, là, lui, qui va nous servir plutôt dans des cas où…
Donc DCDiag, c'est au niveau DNS, donc slash test de point DNS, il va nous énumérer tous les contrôleurs de domaine, il va vérifier le basique, c'est-à-dire s'il arrive à se connecter dessus, il va vérifier leur adresse IP, leur configuration TCP/IP, les services qu'ils ont. À partir du moment où le contrôleur de domaine a le service DNS serveur démarré, il considère donc qu'il est serveur DNS, voilà, et à ce moment-là, il va tester ces redirecteurs, il va essayer de les joindre, ces délégations, ces enregistrements de type SRV. S'il considère qu'il n'est pas contrôleur, qu'il est uniquement contrôleur de domaine et non serveur DNS, il va s'arrêter à ce niveau-là. Il va juste vérifier donc la partie enregistrement de type SRV.
Parfait, donc là c'est la partie des tests. Là j'ai rajouté deux petits switches intéressants, le slash Q qui veut dire quiet, donc ça veut dire mon bad pas si tout va bien. Et puis le slash E qui veut dire slash enterprise où il va parcourir en fait l'ensemble des éléments de l'organisation. Donc là je spécifie simplement, tu prends DC01 comme plan de départ, ensuite tu te débrouilles, pour être poli, tu parcours l'ensemble des DC que tu trouves et puis tu checkes l'état de santé de l'ensemble de l'environnement. Hop, on valide, on fait la validation du truc et puis si tout est bien configuré dans mon environnement, ben, j'aurai un retour qui sera vide là puisque j'ai mis le mode quiet. Sinon si je veux voir un vrai output, parce que je suis un informaticien quand même, et bien là je retirerai le slash Q et puis je verrai en mode verbose le retour de l'ensemble des éléments de mon test. Donc là on lui donne quelques secondes pour qu'il revienne sur un prompt et puis on va voir que normalement, je l'ai lancé déjà au préalable, hein, ça devrait bien se passer. Est-ce que c'est confirmé?
Est-ce que la plateforme est restée stable?
Eh bien, j'ai envie de dire, mon petit Nadim, ça se passe plutôt pas mal, non, hein, puisque là, il m'a rien retourné dans ma console. Alors, juste, ce serait quand même bête hein, de faire un module sur DNS sans avoir été jeter un coup d'œil dans la console DNS. Donc, on va quand même se lancer un DNS à mgmt.msc. Et on va retourner un petit peu voir dans ce qu'on avait configuré tout à l'heure. Donc, on le disait tout à l'heure, la zone MSDCS, elle est présente ici. Et à l'intérieur de cette zone MSDCS, la zone de forêt, je vais retrouver tous les enregistrements de type NS, où j'ai ce qui détermine les naming servers. J'ai les GUID de mes contrôleurs de domaine qui sont présents ici. Et puis, j'ai mon Start Authority qui est l'endroit où je vais trouver un petit peu les metadata par rapport à mon environnement. Je vois ici les enregistrements de type PDC, donc là j'en ai normalement un par domaine. Hein. Donc là j'ai le PDC, l'enregistrement de type SRV pour DC01. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, la notion de underscore service LDAP avec un poids, un port, donc 389, c'est ce qu'on voit ici, et une priorité. C'est ce qu'on voit quand on a dans les détails de la console ici l'ensemble des paramètres. Et ce qu'on discutait tout à l'heure de notion de scope de réplication, on va le voir ici dans les propriétés de la zone. Et on voit qu'on a ici dans la partie replication quelque chose qui me dit all DNS server in this forest. Et c'est là que tu peux changer effectivement le scope de réplication où tu dis tout ça va être répliqué soit dans la forêt, soit dans le domaine, soit en mode 2000, tu répliques ça uniquement dans le domaine de la racine. Cool.
On fait un
petit tour d'horizon rapide.
Un petit tour d'horizon.
Alors là, si on descend dans la zone, hein, c'est là où on va retrouver les DC en tant que tel, où là, je vois le A-Record qui est propre à mon DC. Et puis là, je vois effectivement un petit peu plus dans les détails les zones relatives à mes sites. Et c'est là qu'en fait vont être les enregistrements qu'on appelle sites spécifiques, tu discutais tout à l'heure, qui est je veux localiser un serveur LDAP à l'intérieur de mon site branch office. Mais en fait, c'est là qu'une fois que le client il aura eu comme information qu'il est sur tel site, alors il va complémenter sa recherche DNS pour interroger underscore LDAP pour le domaine w2k12demo.net en préfixant branchoffice.site pour dire je veux un enregistrement qui soit dans ce site en particulier. Donc voilà, et là comme mon environnement a été promu normalement en 2012, je vais voir que si j'ai l'étendue de la zone w2k12-demo, alors là le scope de réplication, eh bien tous les serveurs DNS dans
le domaine.
Alors, en matière de stockage des enregistrements dans l'AD, hein, puisqu'on est là, autant regarder un petit peu également un coup de ADS et Edit à quoi ça ressemble. Alors là, normalement, on est dans mon environnement classique. Dans mon default naming context, j'ai la zone DNS dans système. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Nadim, mais dans ma zone, dans mon environnement système, j'ai ici simplement DNS et j'ai rien.
Microsoft DNS.
Et j'ai rien, en fait, j'ai juste des routines.
Pourquoi j'ai rien ? Parce que notre DNS est stocké dans une partition applicative.
Yes, donc là je l'ai un petit peu déjà saisi avant, hein. Tu vois, c'est DC égale Forest DNS Zone, DC égale W2K12-demo, DC égale net. Et dans ce cas-là, je vois le contenu de ma partition applicative. Et là, je vois bien qu'effectivement, j'ai un peu plus de choses. J'ai ma zone MSDCS, et là, j'ai les enregistrements basiques tels qu'ils sont stockés dans l'Active Directory. Alors attention, ceci n'est pas une interface d'édition de la zone Active Directory, hein. C'est juste un environnement pour aller vérifier où sont stockés les objets, mais on vous recommande absolument pas d'aller toucher à ça dans cette interface-là. Hein. Toutes les opérations sur les changements d'informations par rapport aux zones doivent être faites dans la console DNS. Hop. Et bien voilà pour ce petit tour d'horizon de l'année et puis des outils qu'on a à notre disposition pour vérifier son état de santé, hein, la console, DCDiag et puis DNS Elint. Alors, quelques recommandations de bonne pratique. Donc, purger, faire une vérification en tout cas dans mon environnement que j'ai pas des DC qui sont présents encore référencés comme name server alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pas utiliser de transfert de zone ou alors des transferts de zone sécurisés uniquement. Parce qu'un transfert de zone, ça veut dire que je peux lister l'ensemble des environnements, des infos de mon
zone. Et si vous devez le faire, faites-le uniquement pour un serveur et pas pour tous les serveurs.
Mm-hmm. Les mises à jour dynamiques sécurisées, le vieillissement, le nettoyage programmé des enregistrements sur l'environnement, et puis désactiver l'enregistrement des cartes réseau non nécessaires sur
les contrôleurs de domaine
ou les environnements. En résumé, les contrôleurs de domaine sont localisés avec l'enregistrement type SRV et leur GUID. On a vu que si ça ne fonctionne pas, on redémarre un petit coup de netlogon et dans la plupart des cas, ben, ça nous permettait de reforcer l'enregistrement des records manquants. On a vu que surveiller le fonctionnement de nos services DNS, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce que vont utiliser tous les contrôleurs domaines pour discuter entre eux, pour se localiser. Est-ce que également vont utiliser les machines clients pour localiser ces services? Et on a vu que dans les outils qu'on a à disposition pour troubleshooter tout ça, eh bien, on a DNSLint et DCDiag qui sont, une fois, nos outils qui vont nous permettre de connaître un peu ce qui est en train de se passer et quel est notre état de santé de tout ça. Voilà pour ce petit tour d'horizon de DNS et de son fonctionnement dans l'AD.
Je pense qu'on a fait un petit tour assez complet sur ce sujet. Maintenant, nous devons passer à l'état de santé de ces contrôleurs de domaine.
Voilà, de manière plus globale, quelques informations sur l'état de santé d'un DC. Et ben, merci Nadim, en tout cas, pour ton expertise sur ce domaine, et puis à très bientôt sur MBA.
Merci Arnaud.